Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Carnets d'Igor. Aujourd'hui, je vous donne rendez-vous au château de Versailles pour découvrir des espaces et des pièces cachées, souvent méconnues des visiteurs, des lieux secrets qui se trouvent en arrière-plan du parcours de visite que l'on suit habituellement. Il y a quelques semaines, j'ai eu la chance de visiter certains des espaces cachés du château de Versailles grâce à l'association Les Amis de Versailles. Des pièces situées en retrait des appartements officiels des souverains et parfois même de leurs cabinets privés, des pièces que vous pouvez explorer vous aussi grâce à la visite guidée intitulée « Les lieux cachés de Versailles », une visite disponible sur réservation sur le site du château. Portes dérobées, passages secrets, entresols ou escaliers privés, on grimpe, on se baisse, on bifurque et on s'émerveille surtout de pouvoir accéder à des espaces personnels et méconnus du grand public où sont parfois nées les petites histoires qui ont bousculé la grande. Loin du faste des grands appartements qui marquent une réelle distance entre le public et les souverains, on pénètre ici le quotidien intime des rois et reines qui ont habité Versailles, à tel point qu'on ne serait presque pas surpris d'y croiser Louis XV, Louis XVI ou Marie-Antoinette. De l'appartement intérieur du roi à son petit appartement, en passant par les cabinets intérieurs de la reine, nombreux sont les espaces qui échappent aujourd'hui au parcours de visite standard du château, comme ils échappaient aussi bien souvent aux visiteurs et courtisans de l'époque. Il faut ainsi savoir qu'au-delà des pièces d'apparat que l'on connaît toutes et tous, se cache un deuxième Versailles plus privé, destiné au roi comme à la reine et à leurs proches. L'appartement intérieur du roi, tout d'abord, est situé au premier étage de l'aile nord du château, à l'arrière des salons officiels. Bâti par Louis XIV en 1682 pour accueillir ses collections privées de bijoux, médailles, œuvres d'art, cet appartement intérieur est réaménagé dès 1735 par son arrière-petit-fils et successeur, Louis XV. Moins adepte de la vie publique dictée par l'étiquette, Louis XV fait créer par son architecte Ange Jacques Gabriel de véritables espaces de vie privée où il peut lire, travailler en toute discrétion, seul ou avec ses conseillers, mais aussi recevoir une société choisie pour des parties de jeu, des moments de discussions intimes ou des soupers en petits comités. Par de simples portes ou d'étroits passages, le souverain passe ainsi rapidement des salons d'apparat régis par le protocole à des pièces privatives où il se sent plus libre. Mais en marge de cet appartement intérieur où il reçoit ses proches, le roi s'est également réservé un petit appartement encore plus intime, dont l'existence est parfois insoupçonnée des courtisans. Une première enfilade de petits espaces sera ainsi créée en 1670 pour Louis XIV dans l'attique au troisième étage, au-dessus de son appartement intérieur. Détruit pour laisser place à la hauteur de la galerie des glaces, ce petit appartement sera rebâti dans les combles et accessible par un escalier semi-circulaire que nous emprunterons plus tard dans notre visite. Cet escalier qui reste le seul vestige de l'époque du Roi Soleil, puisqu'en effet, les aménagements que l'on peut voir aujourd'hui, du deuxième au quatrième étage, sont ceux réalisés à la demande de Louis XV puis de Louis XVI au XVIIIe siècle. Les cabinets intérieurs de la reine, quant à eux, se situent au premier et au deuxième étage de l'aile sud du corps central du château, à l'arrière là aussi de ses appartements officiels. Alors petite précision, on parle de cabinet et non d'appartement, tout simplement parce que ici on ne trouve pas de chambre. Loin des contraintes de la vie de cour, la reine y est femme, mère et amie. Elle reçoit sa famille, Madame Élisabeth, sa pieuse belle-sœur, ses beaux-frères, les comtes de Provence et d'Artois, ses enfants, mais aussi ses amis, la duchesse de Polignac, la princesse de Lamballe ou encore son ami amant, le comte Axel de Fersen. Traditionnellement, ces pièces étaient moins nombreuses chez la reine que chez le roi, qui avait, lui, une chambre privée. Et si Marie Leszinska, l'épouse de Louis XV, va réaménager et agrandir ses cabinets intérieurs entre 1728 et 1748, c'est surtout Marie-Antoinette qui, dès son arrivée à Versailles en 1770, va s'approprier les lieux et les redécorer. Passionnée de décoration, elle n'a de cesse de revoir et agrandir ses cabinets. Elle dépense sans compter pour les aménager à son goût, ce qui va d'ailleurs participer à sa réputation de reine dépensière. Et ainsi, dès son accession au trône en 1774, elle étend ses espaces privés au deuxième étage où se trouvaient des pièces de service. Il faudra attendre la mort de Madame Sophie, l'une des filles de Louis XV, en 1782, pour qu'en 1784, Marie-Antoinette se fasse construire au rez-de-chaussée du château, en lieu et place de ses espaces, un petit appartement avec une chambre cette fois et une salle de bain. En l'entresol, la reine fera enfin aménager sous ses cabinets privés des pièces de service, pour son personnel bien sûr, mais aussi pour accueillir la gouvernante de ses enfants, Madame de Polignac d'abord, puis Madame de Tourzel. Nous sommes en effet ici au-dessus des appartements du dauphin et de la dauphine, et il est donc logique que les gouvernantes logent ici, à proximité des enfants de France. Voilà, alors ces dernières pièces, comme celle du petit appartement du roi, font partie de la visite dédiée aux lieux cachés que j'ai suivie, une visite que je vous propose de découvrir dès maintenant, sans plus attendre. Cette visite débute dans le vestibule de marbre au centre du château vieux, vous savez, le château initial de Louis XIII autour duquel Louis XIV bâtira son palais. D'ici, à gauche de la galerie haute attenante, nous gagnons le passage du roi via un petit escalier. Ce passage du roi, en entresol, bâti pour lui alors qu'il n'est encore que le dauphin de France, sera régulièrement utilisé par Louis XVI pour rejoindre l'appartement de Marie-Antoinette en toute discrétion. Il l'empruntera notamment dans la nuit du 5 au 6 octobre 1789 pour tenter de gagner la chambre de la reine alors que la foule de Parisiennes et Parisiens, arrivés à Versailles pour réclamer du pain et le retour de la famille royale à Paris, forcera les grilles du château. Ce soir-là, Louis XVI trouvera malheureusement porte close. Marie-Antoinette était en effet partie de son côté rejoindre la chambre de son époux via son passage privé situé, lui, au-dessus de celui du souverain. Mais le couple royal finira quand même par se retrouver dans la chambre du roi avec leurs enfants. Aujourd'hui, le passage du roi est coupé en deux parties distinctes, tandis qu'à l'époque de Louis XVI, il reliait bien, de bout en bout, l'aile nord occupée par le roi à l'aile sud habitée par la reine. C'est en réalité le choix de restaurer les galeries hautes et basses du château dans leur configuration d'époque Louis XIV, en retrouvant les volumes et hauteurs sous plafond d'alors, qui a conduit à la destruction d'appartements qui se trouvaient ici, au rez-de-chaussée du corps central du château, comme celui de Madame Sophie, et qui mènera surtout à la disparition d'une partie du passage du roi à l'entresol. Quoi qu'il en soit, pour commencer notre visite, nous empruntons un tronçon de ce couloir privé situé du côté de l'aile de la reine. Nous gagnons ainsi l'appartement de Madame de Tourzel, gouvernante des enfants de France. Après la Révolution et sous la Restauration, ces pièces seront remises en état pour accueillir les appartements privés de la duchesse d'Angoulême, fille de Louis XVI et Marie-Antoinette qui a survécu à la Révolution. Et bien que cette dernière ne l'occupera finalement jamais, c'est cette version que nous pouvons voir aujourd'hui. En revenant sur nos pas et après avoir gravi quelques marches jusqu'au premier étage, nous gagnons ensuite certaines des pièces de service ou de commodité, cabinet de la chaise, cabinet de toilette, situées en arrière-plan du grand appartement de la reine et de ses cabinets intérieurs. Nous nous trouvons ainsi d'abord juste à l'arrière de la chambre du grand appartement de Marie-Antoinette. Je veux dire que l'émotion est grande lorsque l'on ouvre la porte cachée qui se trouve devant nous et qui nous mène directement à droite du lit de la souveraine. D'ici, le point de vue est inhabituel et très privé, car c'est certainement celui qu'avait la reine lorsqu'elle se couchait, ce qui rend l'expérience encore plus émouvante. On peut ainsi observer sous un angle nouveau son lit, comme les décors et le mobilier qui composent la pièce, et notamment ce magnifique coffre à bijoux en acajou qu'elle reçoit en 1787 et que l'on admire toujours de loin sans jamais pouvoir l'approcher, excepté dans le cadre de cette visite exclusive. Toujours à proximité de sa chambre, les pièces de service que nous traversons ensuite donnent sur les cabinets intérieurs de la reine, comme le cabinet de la Méridienne, ce cabinet que l'on découvre ici selon un point de vue différent des visites habituelles, puisque d'habitude on peut notamment le voir lorsque l'on suit la visite dédiée au cabinet intérieur de Marie-Antoinette, mais sous un angle différent. Bref, après avoir déambulé dans l'intimité de la reine, il est grand temps de se rendre chez le roi. Sous Louis XVI, nous aurions emprunté le passage du roi. Mais comme je vous l'expliquais, à la suite des restaurations des galeries basses et hautes, nous sommes aujourd'hui contraints de regagner le rez-de-chaussée et de traverser la cour de marbre avant d'entrer dans l'aile du roi. Nous empruntons alors ce qu'on appelle le degré du roi, soit l'escalier qui conduit à son appartement intérieur, et nous montons jusqu'au premier étage. Après avoir traversé son appartement intérieur, l'antichambre des chiens, le cabinet de la pendule, sa nouvelle chambre, nous arrivons dans la salle du conseil du roi qui ouvre d'un côté sur sa chambre d'apparat, de l'autre sur la galerie des glaces et enfin, via une porte dérobée, sur les pièces intimes de son petit appartement. Notez que ces pièces privées que nous allons découvrir maintenant sont également accessibles directement depuis l'appartement intérieur grâce à deux petites portes, l'une située dans la salle à manger dite des retours de chasse, l'autre dans la salle des buffets. La première pièce du petit appartement que nous rencontrons est la salle de bain du roi. C'est la sixième que Louis XVI possède à Versailles. On peut y observer de jolies boiseries dorées, après tout on reste ici dans une pièce royale. On y voit aussi une cheminée pour réchauffer l'atmosphère, mais également les emplacements de deux baignoires ainsi que les conduits qui devaient accueillir les robinets. Attenant à la salle de bain, on peut enfin apercevoir le petit cabinet de chaise de Louis XVI, c'est-à-dire ses toilettes privées. Après être passé devant l'escalier semi-circulaire que nous allons bientôt monter et qui conduit au cabinet supérieur, nous entrons dans le cabinet doré, dit aussi cabinet des perruques. Louis XVI avait installé ici son cabinet de géographie où il pouvait étudier et dessiner les cartes. Ce cabinet ouvre ensuite sur le passage des cartes que nous n'emprunterons pas et dont le nom provient des nombreuses cartes qui étaient accrochées. Ce passage conduit directement à la salle à manger des retours de chasse ou à la pièce des buffets de son appartement intérieur, donc vous voyez que tout est lié. Notez que toutes les pièces du petit appartement donnent sur la cour des serres. Reconnaissable aux têtes de serre en plâtre qui en décorent les murs, cette cour est parcourue de balcons qui pouvaient alors servir à se rendre d'une pièce à l'autre par l'extérieur, parfois même de manière plus directe que par les intérieurs. Pour ce qui nous concerne, la visite se poursuit à l'entresol du petit appartement du roi que l'on rejoint donc via l'escalier semi-circulaire. Ici se trouve d'un côté la salle des réservoirs avec ses cubes et son système de chaufferie qui permettait d'alimenter en eau froide et en eau chaude la salle de bain du roi qui elle est située juste en dessous, et de l'autre côté on trouvait la réserve de bois. Toujours par l'escalier semi-circulaire, nous gagnons maintenant le deuxième étage. La pièce de droite, créée pour Louis XV et qui a connu de nombreuses fonctions, est aujourd'hui présentée comme le cabinet de chimie de Louis XVI. On y voit encore d'ailleurs la table de marbre surmontée d'une hotte qui permettait de préparer les solutions chimiques et surtout d'évacuer les fumées. À gauche du palier se trouve une pièce qui fut successivement la bibliothèque de Louis XV, la garde-robe de Marie-Joseph de Saxe, puis celle de Madame du Barry, avant de devenir le cabinet du tour de Louis XVI, où il pouvait travailler, c'est-à-dire tourner, le bois ou l'ivoire. Il faut savoir qu'à cet étage se trouvaient à l'origine une dizaine de pièces, des pièces qui complétaient le petit appartement du roi Louis XV, avec des salles à manger, des cuisines, des laboratoires, salles de bain, salons de jeu. Entre 1766 et 1767, la dauphine Marie-Joseph de Saxe, mère du futur Louis XVI, va y loger pendant les travaux de son appartement du rez-de-chaussée. Malheureusement, elle va aussi y mourir avant d'avoir pu habiter son nouveau logement. Par la suite, dès 1769 et jusqu'à la mort du roi Louis XV le 10 mai 1774, c'est la favorite de ce dernier, Madame du Barry, qui va s'y installer. Depuis son ancienne bibliothèque, devenue la garde-robe de sa maîtresse, Louis XV pouvait ainsi rejoindre aisément l'appartement de celle-ci grâce à un passage menant directement à sa salle de bain. Alors Louis XVI, qui n'aura pas de maîtresse, va diviser l'appartement de Madame du Barry entre son premier valet de chambre, Thierry de Ville-d'Avray, et son premier gentilhomme, le duc de Villequier. De notre côté, la visite continue au troisième étage, dans les attiques, que nous gagnons toujours par l'escalier semi-circulaire. La première pièce située à droite du palier servait de supplément de bibliothèque à Louis XVI. Sous Louis XV, on trouvait ici la pièce des buffets utilisée pour entreposer la vaisselle et préparer les plats servis dans la salle à manger d'été de l'appartement. Cette salle à manger sera remplacée en 1755 par une grande bibliothèque. Alors, il n'est pas prévu d'y entrer dans le cadre de cette visite, mais j'ai eu l'occasion de la découvrir lors d'un autre de mes passages au château. Cette grande bibliothèque va servir aussi à Louis XVI et elle se situe au-dessus du cabinet du Conseil du Roi. Elle permettait, cette grande bibliothèque, aussi par un petit escalier, de gagner la petite galerie de Louis XV, cette petite galerie de Louis XV qui plus tard sera transformée en chambre pour Madame du Barry, et donc elle permettait à Louis XV de rejoindre encore une fois l'appartement de sa maîtresse. De l'autre côté du palier du troisième étage, à gauche, Louis XVI avait installé son cabinet d'artillerie, c'est-à-dire que sa collection d'armes y était présentée sur des étagères prévues spécialement. Avant lui, cette pièce servait de salle de bain à une autre grande favorite de Louis XV, à Madame de Pompadour, et faisait partie intégrante de l'appartement privé qu'elle possédait à cet étage. Nous allons en reparler, mais pour le moment, reprenons l'escalier semi-circulaire qui nous conduit sous les combles au quatrième et dernier étage du château. À gauche du palier se trouvait l'atelier de menuiserie de Louis XVI, et à droite, sa forge et sa serrurerie, deux de ses passions. Sa forge et sa serrurerie qui ont depuis été remplacées par le mécanisme de l'horloge de la cour de marbre. Depuis les combles, Louis XV comme Louis XVI pouvaient alors accéder au toit du château, au-dessus de la galerie des glaces, un endroit où ils aimaient se promener seuls ou accompagnés. Alors, poursuivons notre visite, nous revenons sur nos pas et nous redescendons par l'escalier semi-circulaire toujours au troisième étage. Là, via le cabinet d'artillerie de Louis XVI, nous gagnons l'arrière de l'appartement de Madame de Pompadour. Après avoir traversé sa garde-robe, une garde-robe très bien conservée, nous gravissons quelques marches pour découvrir l'appartement de sa suivante et femme de chambre, Madame du Hausset. Ce très petit appartement présente du mobilier et des éléments de décor qui laissent à imaginer ce que pouvait être la vie du personnel et des dames de compagnie. On est ici en outre marqué par la présence de deux lits, un plus grand disposé dans la chambre même et un second en alcôve. Ce dernier, le second en alcôve, servait à la femme de chambre de Madame du Hausset. Donc, si vous suivez bien, il servait à la femme de chambre de la femme de chambre. Bref, une fois redescendu, nous longeons l'appartement à proprement parler de Madame de Pompadour, son cabinet intérieur, son salon de compagnie, sa chambre, son antichambre, des pièces que nous ne visiterons pas dans le parcours du jour, mais que j'ai pu découvrir lors d'une visite des appartements des favorites de Louis XV, une visite que j'avais suivie toujours avec les amis de Versailles. Finalement, nous empruntons un ultime escalier qui nous conduit sur le palier de l'escalier dit de Louis-Philippe, au premier étage, à l'arrière du grand appartement du roi, et précisément derrière les salons de Diane, de Vénus et de l'Abondance. Nous entrons dans ce dernier, le salon de l'abondance, et gagnons le grandiose salon d'Hercule avant de pénétrer dans l'ultime lieu caché de notre visite, le premier étage de la chapelle royale. Alors j'avais déjà pu admirer cette sublime et impressionnante chapelle royale, bâtie en 1710 par Louis XIV, mais je ne l'avais observée que depuis le rez-de-chaussée. Ici, une autre perspective s'offre donc à nous depuis le balcon. On peut mieux observer les vitraux, les détails sculptés, le sol, mais on peut aussi s'apercevoir des dégradations et modifications révolutionnaires, notamment sur les piliers dont toutes les fleurs de lys, à une ou deux exceptions près, ont été effacées. C'est également l'occasion d'admirer de très près le magnifique orgue de la chapelle que l'on peut approcher et dont on peut observer chaque détail, et c'est encore une fois un vrai privilège que de pouvoir y accéder ainsi. Voilà, alors la visite se termine donc ici, dans la chapelle royale, après près de 2 heures de déambulation passionnante dans les dédales du château. Je vous propose maintenant de vous donner mon ressenti quant à cette visite exclusive. Alors vous le savez, si vous m'écoutez de manière régulière, ce n'est pas la première fois que je partage ici les visites guidées que je suis régulièrement au château de Versailles, et à chaque fois, je ne peux cacher mon enthousiasme quant à la qualité de ces parcours, des parcours souvent méconnus et que je recommande pourtant vivement de suivre. Ce sont toujours des moments passionnants, riches de découvertes et d'émerveillement. On y explore des lieux habituellement fermés au public, emmenés par le récit de professionnels qui savent expliquer avec talent les secrets de ces pièces, comme les histoires de celles et ceux qui les ont habitées. Sachez que toutes les informations pratiques et les réservations se font sur le site du château de Versailles, mais en ce qui me concerne, j'ai l'occasion de suivre nombre de ces visites grâce à l'association Les Amis de Versailles, cette association qui dispose de créneaux privilégiés. Pour rappel, l'adhésion aux Amis de Versailles permet aussi de venir visiter de manière illimitée le château, les jardins et les domaines de Trianon, mais aussi d'assister à des soirées privées au château ou encore des visites guidées d'expositions ou d'exceptions comme celle d'aujourd'hui. N'hésitez pas donc à vous renseigner sur le site des Amis de Versailles si cela vous semble intéressant. Voilà, j'espère que cette visite privée des lieux cachés de Versailles vous a plu. Quoi qu'il en soit, je vous remercie pour votre écoute et je vous invite à vous rendre sur mon site, lescarnetsdigor.fr, pour retrouver l'article illustré concernant ce parcours. Vous pourrez également y découvrir d'autres histoires et visites de mes lieux historiques et culturels favoris, mais aussi diverses anecdotes à travers les articles et les podcasts dédiés. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Thread, TikTok et YouTube, où je partage toutes mes actualités en photo et en vidéo. Enfin, et avant de conclure, je profite de ce podcast pour vous inviter à vous inscrire à la lettre des carnets d'Igor, ma newsletter mensuelle dédiée à la culture, au patrimoine et à l'histoire. Pour ce faire, rien de plus simple, il vous suffit de suivre le lien sur mon site, lescarnetsdigor.fr donc. En attendant, je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres aventures, d'autres anecdotes et d'autres visites.